Dorset.
Groovy.
Bonsoir, Françoise Tressard et la belle équipe en piste pour un nouveau samedi soir jusqu'à 21h avec justement une histoire de samedi soir suivie du pamphlet de Sophie Divry. Ça va être cinglant pour les filles à cheveux longs.
Soit vous avez un visage moche et vous n'avez qu'à vous cacher sous des cheveux détachés. Soit vous êtes jolie et autant avoir les cheveux courts, c'est plus rapide, c'est plus économique. J'ai jamais compris cette acclamation culturelle autour des cheveux longs.
Et puis, un jeu d'écriture à pratiquer, vous aussi la texter. Des Val Massy pour les Patrice Minet et Delbourg. Quand un papou lit un autre papou, ce sera au tour d'Odile Conseil de raconter. La lettre d'amour à Marilyn par Ricardo Mosner, Violaine Schwartz. Et pour boucler notre troisième samedi soir papou, on achève bien les romans avec Jean-Bernard Pouy et Jacques Jouet.
Et il termine là par une première quand même qui est un alexandrin mis en anglais, mis en français.
Oh, c'est bien ça.
When my gosier is sick, I am very so sad. Let's drink a little more, c'est fini les salades.
Vous l'avez compris, depuis la rentrée, le samedi, c'est Papou sur France Culture. Et toujours dans la tête, merci de votre fidélité. Et un grand salut à ceux qui écoutent pour la première fois. Soyez les très bienvenus chez les Papous. Une autre façon de voir, de faire plutôt la culture, avec un regard en biais, l'amour du jeu, sans se prendre au sérieux. Merci de nous écouter à l'heure du dîner ou de l'apéro du samedi. La nourriture sera festive et toujours proposée avec le sourire et pour vous régaler.
C'est trop génial!
Et pour ceux qui sortent le samedi soir, le podcast. On s'abonne, c'est gratuit et on écoute quand ça nous dit. Et c'est Lucas Fournier qui ouvre l'émission Papou, fidèle Lucas, depuis de longues années, essayiste. C'est nouveau, ça vient de sortir, traité de néopathie, par exemple. Ou bien c'était mieux avant, un brin nostalgique, Lucas. Alors après la série sur les jolis dimanches à garder précieusement, j'ai demandé à Lucas Fournier de nous écrire des histoires de samedi soir en pastiche. Numéro 2, Lucas.
C'est le samedi soir de Monsieur Gachignard, adapté de Georges Feydeau.
Oui. Mon bourmelon, mon bon bourmelon, mon ami bourmelon, il m'en est arrivé une de ces, mais une de ces. Oh, foi de Gachignard, oh, il faut que je te le dise, c'était samedi, non, tu vas pas me croire. Oh, assieds-toi, gourmelon, mon ami, là, voilà. Ah, Christy, je suis dans un potage, mais un potage, à cause de ce samedi. Oh, mais d'abord, à boire par pitié, comme dit l'espagnol de l'armée en déroute. Un porto, oui. Non, un cognac. Ah là 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 là, mais quelle affaire! Alors, voilà. Bon, Bourmelon, Madame Galouzeau. Mais si, Mathilde Galouzeau. Belle femme. Hein, superbement dotée, rousse, oui. Avec, oui, c'est ça, un œil plus... Oui, enfin, beaucoup plus que l'autre. Mais surtout avec un petit, hein, Bourmelon, hein, entre hommes de goût, on se comprend, hein. Alors, je ne ferai ni une ni deux. Ça faisait un petit moment que je voulais avoir un entretien avec elle, et à la fin, l'innocente m'avait dit « Venez donc samedi soir, c'est le premier samedi du mois, Galouzeau, mon mari, est au club pour le championnat de Canasta, et il ne rentre que vers les 2h du matin. » Et la perfide avait ajouté, perfide, mais avec un petit, je ne te dis que ça, Bourmelon. Ah, tu connais son petit... Bon, d'accord. Bref, elle ajoute, et il est bien possible que la bonne ne soit pas là non plus. Et elle a eu un soupir, mais un soupir. Ah, tu me connais, Bourmelon, hein, je ne suis pas homme à ne pas répondre à l'appel suppliant d'une femme malheureuse. Et mon devoir d'homme et de philanthrope, foi de Gachignard, était lui apporter un réconfort dont je la sentais si dépourvue. Surtout que tu la connais, hein. Oui, c'est vrai, tu la connais, oui. Elle est, je ne dirais pas imposante, non, mais elle est importante, hein, c'est cela. Oui, il y a beaucoup de sa personne à consoler. Ah, oh, mais ce samedi, mais mon Dieu, mais quelle histoire! J'étais allé le matin chez mon barbier et je m'étais pris un cordial pour me muscler le cœur et la laine. Ah, oh, mon vieux Bourmelon, tu m'aurais vu avec ma veste gorge de tourterelle et mon pantalon perroquet andalou. J'étais un astre à la conquête d'une constellation. Bref, le samedi soir, vers les 8h, j'y suis rue Saint-Fiacre. Je passe par la cour pour éviter de réveiller la gardienne. Je monte chez les Galouzeaux. Tu sais que j'ai été escrimeur. J'ai le passe Svelte. Et preste. J'arrive par la porte de l'office qui n'est jamais fermée, m'avait dit Mathilde. Oh, délicatesse féminine. Et c'était vrai. J'entre. Oh, douceur bourgeoise d'un foyer qu'une vestale féminine anime de son souffle incandescent. Je me glisse dans une pièce. C'était sa chambre. Oh, le boudoir d'une femme qui va se donner, mais c'était exquis de parfums, de dentelles et de froufrous. Cela sentait aussi lamberé de choux, mais cela devait être les voisins. Ça m'a donné une soif. J'ai sorti une fiasque de Bourbon. Donne-moi un autre cognac, Bourmelon. Oh, mais quelle histoire. Et je l'ai bu. Alors, j'avais mis mes bottes façon hussard. Les femmes aiment beaucoup. Tu sais que je monte. En manège. Ginette, une petite modiste de mes connaissances, bien gracieuse, me disait que les bottes chez l'homme, c'était comme le fourreau chez... Je ne sais plus. Je te le dirai plus tard. Alors bon, je me mets très à l'aise en l'attendant, prêt à l'assaut, mais je garde mes bottes. Soudain, un bruit de pas dans le couloir, mon cœur palpite, je me resserre une giclée d'Europe, ou de brandy, ou de bourbon, et je lance d'une voix de baryton Martin, car j'ai une voix de baryton Martin. « Hola, hola, Madame Galouzeau, oh, je suis là, ha, ha, ha. » Et je vois sa haute silhouette de femme forte et si fragile à la fois s'inscrire dans l'entrebâillement de la porte. Et là, mon vieux Bourmelon, je me jette dans ses bras tout à trac. Stupeur et tremblement, c'était Galouzeau.
Oh.
Il n'était pas à son club. Non, non, non. Il ne faisait pas sa partie de canasta. Mais tu vois, mon bon Bourmelon, je ne sais pas comment font les femmes avec leurs petites affaires. Mais lire un calendrier, c'est comme les cartes de géographie. Elles ne savent pas. Oui, c'est vrai, c'était samedi. Mais pas le premier du mois, vu que c'était le samedi 29 février. Elle avait oublié. Tu imagines la suite? Terrible. Je ne dirai qu'un mot. C'était encore pire que la mort de Sardanapale. Mais quelle histoire! Ah, on ne m'y reprendra plus. Après ça, tu vois, mon bon ami, j'ai tant besoin de réconfort. Et justement, c'est samedi, ce soir. Et j'ai un rendez-vous à l'opéra avec une jeune espoir de la chorégraphie française qui a besoin de mes encouragements. Ah, il ne sera pas dit, même dans l'adversité, qu'un gâchignard laissera une pure jeune fille dans l'abandon cruel de la ville tentaculaire un samedi soir. Mes gracieux hommages à Madame Bourmelon.
Quel acteur, celui qui a fourné.
Il va se retrouver sur les planches. Là,
mais parce oui, que mais on lui souhaite.
Ça, je lui prédis, c'est tout à fait une vocation pour lui.
Mieux sur les planches qu'entre deux planches, oui.
Elle pique sa colère. Elle, c'est Sophie Divry, qui a rejoint la bande des Papous depuis presque 2 ans, et pour notre plus grand plaisir. Romancière, on parle souvent d'elle et de ses livres, par exemple, à la télé, chez François Bunel. Et c'est là que je l'ai découverte. Elle y parlait de son livre « Quand le diable sortit de la salle de bain ». Je l'ai trouvé très papou, alors j'ai pris mon téléphone, je l'ai appelé. Et elle a dit oui, parce que les papous, elle en était auditrice, figurez-vous. Et elle a du caractère, Sophie, et des idées de pamphlets plein la tête. Alors, vous êtes contre quoi?
Je suis contre vous, François.
Contre moi?
Non.
Non.
Peut-être, non, non, je vous ai pas vu faire ce geste horrible. Donc,
ah
ça
bon
va.
Bon, c'est quoi?
Je suis contre les filles qui se rattachent sans cesse les cheveux.
Ah, elles se font un chignon avec un crayon, un élastique.
Qu'est-ce que j'aurais pu en bouffer des cheveux? Bah, pas les miens, hein, mais ceux des autres filles. Ça me rend malade. Faut pas que je voie ça. Tout a commencé au collège, dans le cours de français de M. Ravier, alors que j'étais captivée par ses explications sur la tragédie racinienne. Mmh. À l'époque déjà, on me traitait d'intello. Hein. Pourtant, je n'étais pas au premier rang. J'étais au deuxième rang. Devant moi, il y avait Émilie Galoche, cette pimbèche qui habitait le village d'à côté. C'était une fille qui faisait du tennis. J'ai horreur des gens qui jouent au tennis, mais c'est une autre histoire. Émilie Galoche, comme la plupart des collégiens et des collégiennes, elle se fichait des subtilités de la versification classique. Mais comme elle ne pouvait pas s'ennuyer sans rien faire, commençait la cérémonie de se rattacher les cheveux.
Ah.
Ah, des cheveux châtains, longs, soyeux, propres, bien coiffés en arrière. Ça a son importance dans la genèse de ma phobie rattachée au capillaire. Ces cheveux n'étaient pas mal attachés, Mais voilà, ça les démange, les filles aux cheveux longs. Faut qu'elles se refassent leur coiffure devant nous pour montrer quoi ? Que leurs cheveux sont plus importants que Racine, plus importants que tout. La cérémonie du rattachage de cheveux est longue. Elle commence par l'enlevage de l'élastique. Elle continue par l'ébriefage de la tignasse blonde ou châtain. Et là, survient le moment traumatique pour moi. Quand les cheveux libres, Émilie a ce mouvement de tête caractéristique, celle de lever le menton haut et de faire un mouvement latéral en secouant la nuque, à croire qu'elles sont en train de jouer dans une publicité pour un shampoing. Et c'est là que je reçois plein de cheveux qui se détachent dans ma gueule. Moi qui suis derrière, malgré les lunettes que je portais à l'époque quand j'étais myope, rien ne me protégeait de ces projections dégoûtantes. Et la cérémonie se poursuit. Maintenant, Émilie se replaque toutes ses mèches sur le crâne. Elle reforme avec les deux mains une queue de cheval, la même que tout à l'heure, en se caressant la tête. Puis avec la main droite, elle prend l'élastique qui était dans sa bouche et hop hop, en jouant des deux mains, elle le glisse pour qu'il retienne la masse. Mais ce n'est pas fini. Il faut tirer sur la queue de cheval, naturellement, sans faire attention à ceux qui sont derrière, qui peuvent prendre des nions au passage, afin que les cheveux soient bien tendus, qu'il n'y ait pas de bébé qui s'échappe. Et puis, il faut enlever devant quelques mèches pour les faire tomber sur le front négligemment. Et je n'étais pas au bout de mes peines. Émilie peut recommencer du départ si elle trouve que ça ne va pas. Ce manège peut durer 25 minutes. J'en ai des sueurs froides. Au lycée, ça a continué. Parce que tout ça n'a pas pour but d'être bien coiffé, mais juste d'attirer le regard, de se désennuyer ostensiblement et de faire démonstration de sa féminité à la féminité. Ce faux trésor conçu pour empêcher les filles de s'occuper de choses plus sérieuses, auxquelles d'ailleurs, seuls plus tard les garçons auront droit. Moi j'ai les cheveux courts, c'est plus pratique. Ça fait gagner du temps pour s'occuper de choses plus intelligentes. Et puis ça met en valeur le visage, comme ils disent dans les salons. Mettre en valeur le visage, c'est l'argument pour s'attacher les cheveux dans les magazines féminins. C'est stupide! Quel intérêt de se faire pousser les cheveux si c'est pour les attacher? Deux choses l'une. Soit vous avez un visage moche et vous n'avez qu'à vous cacher sous des cheveux détachés. Soit vous êtes jolie, et autant avoir les cheveux courts, c'est plus rapide, c'est plus économique. J'ai jamais compris cette acclamation culturelle autour des cheveux longs. J'ai toujours haï ce lâcher ondulé horrible que depuis Dallas, les filles se croient forcées d'imiter, ces cascades de cheveux abominables. Moi, je n'aime pas non plus les coupes militaires. Moi, je n'aime les cheveux courts à peu près comme moi. Votre, c'est la coupe idéale. D'ailleurs, j'en ai pas changé depuis mes 13 ans. Ah, mes 13 ans, l'âge traumatique. Au collège, les filles qui parlaient que de ça... Des cheveux, elle s'échangeait des élastiques. Elle s'achetait des pinces à cheveux avec un look girly. Elle disait chouchou pour parler de leur élastique. Tu me prêtes ton chouchou? Il est joli ton chouchou. Et moi, derrière mes lunettes, en lisant Phèdre dans la cour de récréation, je me sentais exclue. Je n'avais pas la popularité d'Émilie Galoche, qui était toute contente d'attirer les regards des garçons sur elle, alors que personne ne me regardait, moi, au collège. C'est là la cruelle vérité. Les années collège, l'acné, la puberté, le contrôle à la maison... C'est pas drôle, mais en plus, quand vous bouffez les cheveux d'Émilie, que les garçons vous ignorent, ça crée un traumatisme. Quand je vois ça, je me contrôle pas. C'est arrivé encore l'autre jour. Je me sentais bien pourtant. J'avais oublié tout ça. Je donnais une lecture de mon dernier roman. Et au bout de deux phrases, horreur. Une jeune femme avait des talons et un sac au combien féminin, le truc qui coûte cher et qui fait débile, là, se détache ses deux couettes. Je me suis mis à trembler. Lapin bêche, elle a passé la moitié de ma lecture à se trémousser en se lissant les cheveux et à empêcher ses voisins de m'écouter. Quand elle est arrivée après pour faire dédicacer mon livre, j'ai sorti mon coupe-papier pour lui rentrer dans le ventre. J'ai cru que j'allais commettre un crime. Heureusement, son téléphone a sonné. Ça s'est joué à un cheveu.
Vous êtes jalouse, en fait. On comprend tout. Mais c'est terrible. Tout.
C'est très objectif.
Non, j'ai joué.
J'ai pas très bien écouté parce que je voulais remettre mon catogan en place.
France Culture, ça vous dit? Des papous, ça me dit. Et oui, le samedi soir de 20h à 21h. Et sinon, en podcast, bien sûr, pour écouter à votre guise. Les nouveaux auditeurs des Papous du samedi soir vont maintenant découvrir le jeu de la textée. Qu'est-ce, demandez-vous? écrire sous la contrainte de la dictée, mais avec d'autres mots que ceux du texte choisi, des métaphores, des comparaisons. Celle qui propose la textée de ce soir a toute liberté du moment qu'elle peut se justifier en fin d'exercice. Elle joue à la maîtresse d'école. Ses élèves, qui écriront d'après sa feuille de route, ne sont pas très scolaires. Il s'agit des Patrice Delbourg et Minet. Alors, Eva Almassi, je sais que vous adorez faire des feuilles de route. Peut-être c'est comme ça votre côté instit. Vous aimez donner des consignes et faire marcher les hommes.
J'aurais tellement aimé être institutrice pour me percer un jour. Ah, c'était mon rêve.
Et donc, vous avez deux élèves sous la main, Patrice Delbourg, Patrice Minet.
Seulement par esprit de contradiction. Oui. Aujourd'hui, j'ai fait comme à la récré, plus qu'en classe de géographie, parce qu'il était imbrication de Java, et donc du coup j'ai fait sur le rythme de la javanaise de Gainsbourg.
Oh, c'est formidable.
Alors, il n'y a que 4 consignes, mais à chaque fois il faudra écrire 4 vers, très courts.
4 fois 4.
Bien.
Voilà. Vers.
4 strophes, si vous préférez.
Ça fait 16 vers en tout.
Et pas du tout sur le modèle de la javanaise.
Ah d'accord.
Vous êtes concerné par une autre forme, mais par ce fond-là.
D'accord.
Donc, tout de suite, le titre pourrait être d'ailleurs le javanais ou un javanais. D'accord,
Je le note.
Non, elle s'est amusée, elle a bien le droit de s'amuser elle aussi avec sa feuille de route. Mais après, vous ne suivez que le fond, comme elle vient de le dire justement.
Sûr.
Hein?
Mais oui.
D'accord. Et donc, vous chantez les consignes?
Oh, je ne vais pas chanter, je vais...
Dommage.
Bon, oui. Peut-être au fur et à mesure.
Ouais.
Oui.
Donc, le titre, ça pourrait être le javanais. Enfin, une sorte de javanais. En 4 lignes, présentez-nous du très lourd. Le nom, l'aspect et tout, mais très lourd. Faut que ça dépayse à l'adresse fort lointaine où nous surprennent les voix d'inhumains êtres.
Oula, ça va pas être facile. Tête de Patrice Delbourg.
C'est tombé sur nous, Patrice.
C'est très facile. C'est
j'aurais
très
pu
facile.
Tomber sur les autres.
Je me sens moins seul que tu sois avec moi.
Où surprennent les voix d'inhumains êtres. En 4 lignes, du sang froid et du sang chaud. C'est le bruit et la fureur, peu s'en faut. Tous vous menacent, cependant un reste sage. Votre héros se distingue du lot.
Restez avec nous, Patrice.
C'est très facile.
Pas. Ne partez pas.
Vous verrez dès que vous l'aurez sous les yeux. C'est très, très facile. Non, c'est très facile.
Moi, je suis content qu'il se soit amusé.
Un premier vers en javanais à sa gloire, ni peur ni honte des étrangers qu'il désarme, qu'il lui déplaise, il s'en moque, il est balèze, qu'on le mitraille blindé, il n'a pas de faille. C'est très facile, c'est très précis, vous verrez. C'est prémâché.
Patrick est très envieux.
Enfin, vous dites en 4 vers que c'est vous. Tout comme lui, vous êtes bardé et pas fou. Invulnérable, dans le sable invariable. Vous avancez, fort de vos préjugés. Très facile. Et donc, j'ai ajouté une note orale parce que j'avais plus de place pour la feuille de route qui dit désarmement, dit armement. Voilà.
Ça éclaire tout. Que ne l'aviez-vous dit tout de suite?
Voilà.
Bon, à ce stade du jeu, je me demande s'il est vraiment nécessaire de poser une question. Non.
C'est très facile.
Patrice Delbourg, Patrice Minet, vous aviez l'air assez catastrophé en écoutant.
Suffisamment catastrophé, oui.
Ouais, la feuille de route d'Eva Almassi. On vous retrouve, là, on vient d'écouter un peu de musique symbolisant le temps qui a passé, la petite demi-heure d'écriture pour vous. Et finalement, vous avez l'air assez réjoui.
plutôt soulagé que réjoui.
Parce que c'est derrière vous.
Voilà, c'est du passé maintenant.
Ah, mais il va falloir le défendre, ce passé. Même impression pour Patrice Delbourg.
Oui, même sentiment.
Bon, alors on va réécouter vos consignes une par une, Eva Almassi.
D'abord le titre.
Oui.
Il faudrait que ce soit quelque chose de Java, donc un javanais.
Oui, mais elle l'avait dit tout à l'heure oui. Déjà.
Ah, vous n'avez pas donné de titre.
J'ai donné un titre, oui.
J'ai donné aussi un titre, mais pas en javanais.
Non, allez-y, Miné.
Non, pas en javanais, un javanais.
Un javanais.
Quelqu'un de là-bas.
Ah.
Il n'a rien compris.
Bon. Alors, un titre, alors.
Oui, voilà, avec plaisir, oui.
Cœur d'enclume.
Cœur d'enclume. Bon, la fameuse enclume japonaise.
C'est assez japonais, oui.
Oui. Patrice Delbourg.
Chéri Bibi.
Chéri Bibi. On sent qu'il va y avoir de la violence dans les deux textes.
Ça, alors, il en faut.
Alors, très bien. Voilà, bravo. Alors, ensuite.
Premièrement. En quatre lignes, présentez-nous du très lourd. Le nom, l'aspect, tout et tout, mais très lourd. Faut que ça dépayse à l'adresse fort lointaine où vous surprennent les voisines humains êtres.
Je peux pas vous le chanter.
Non, ben non, non. Non, mais allez-y quand même.
En quatre vers ici, je vous le fais savoir, je pèse. Je suis l'enclume qu'on ne laisse choir, car elle l'aise.
Oh, mais ça rime.
Je pensais que c'était l'exercice.
Oui, sûrement. Sûrement. Sûrement, donc c'est la parole de l'enclume, tout le poème,
voilà.
Pour vous. Oui.
J'aurais aimé qu'on me voyage en Orient. J'aurais rencontré d'autres gens bien plus sages.
Ça, c'est encore le premier?
Oui.
Ah bon, il fallait faire quatre lignes.
Oui, ça fait quatre, c'est simplement.
Ah, ça fait quatre.
Oui. Bon, c'est des lignes multiples, mais.
Ah oui, c'est des correspondances.
C'est des longues lignes.
D'accord.
Qu'est-ce que ça donne chez vous? C'est une vie aussi d'objets, non?
Non, 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 c'est un paysage. Oh, comme je vous plains, gars des pays blancs. Conducteur de gros tanks étincelants, aux carlingues persillés de tant de talismans, tombés de la Bible, du Talmud ou du Coran.
Ah oui. Il y a le poids quand même, hein. Il y a le tank, il y a l'enclume.
Et les êtres
tant qu'il y aura des hommes.
Les êtres inhumains, c'est les dieux alors.
Voilà.
Voilà.
D'accord. Ah oui, est-ce qu'on est proche?
Non, du tout. Je ne ferai plus jamais texter en chantant.
Voyons si ça s'arrange.
En quatre lignes du sang froid et du sang chaud, c'est le bruit et la fureur peu s'en faut. Tous nous menacent, cependant un reste sage. Votre héros se distingue du lot.
Oui.
Alors, le héros, c'est l'enclume.
Oui. Mais eh bien non.
Pour vous. Ah non, on change.
Non.
Ah,
oui. Si, non, on ne change rien. Ça, simplement, l'enclume a un héros.
Ah, c'est l'enclume qui a...
Oui.
D'accord.
Hélas, rien ne coule dans mes veines, sauf l'écho. Quand on me frappe, ça ne me gêne, pas c'est chaud. Les marteaux, les soufflets sont là. Mon maréchal, le voilà, il n'est rien qui le vale.
Là.
Ça n'a peut-être aucun rapport, mais c'est pas mal.
Comment ça, aucun rapport? Je colle au plus près des consignes.
Qui est-ce qui est resté sage dans cette histoire? Pas vous, en tout cas.
Non, tout le monde est sage.
Ah, tout le monde. Ah ben là, il n'y avait qu'un seul qui est resté sage. Et tout le reste menaçait. Mais bon, c'est bien. C'est l'inversion, c'est une licence poétique.
Oui, ouais. C'est appuyer sur votre consigne pour faire le contraire. C'est pas grave.
Merci, Françoise.
Non, mais peu importe ce que provoque la consigne, l'important, c'est qu'elle provoque quelque chose.
Voilà, la transgression, c'est la liberté.
Exactement. Patrice Delbourg.
Alors, la grande fresque sablonneuse se poursuit.
Oui.
Vous qui semez le bruit et la fureur sur l'horizon, qui formez cinq colonnes à la dune parmi les scorpions, alléluia, seul Chéri Bibi se frise la moustache au collodion en sirotant une bonne rasade d'amer picon.
Ah oui, quand même, il a du goût.
là, qu'est-ce bon, qu'on est loin.
Ah bon.
Ah là, on est très loin. D'accord. Mais enfin, comme je parlais de dépaysement et d'adresse fort lointaine, oui. On est dedans quand même. Bon. Alors, un premier vers en javanais à sa gloire, ni peur ni honte des étrangers qu'il désarme. Qu'il lui déplaise, il s'en moque, il est balèze, qu'on le mitraille, blindé, il n'a pas de faille. Alors.
Moi non plus.
Mais c'est qui il pour vous, alors, Minet?
Comme ça, il, c'est mon idéal.
Oui.
Voilà, alors je commence en javanais, évidemment, puisque tu es la consigne. Oui. Frava peveu mauvo, ah, mon idéal. Montre à tous que tu es à moi, mon féal. Peu lui chaud qu'on critique ou qu'on étincelle, quand il tord sur mon plan la fonte. Les braises et les éclats, il dompte à merveille.
Ah ben c'est absolument magnifique. Oui. Et il n'y a rien qui ressemble.
Ben, pas une lettre.
Non.
Il n'y a pas un vœu.
Oui,
un
ben c'est un autre alphabet. Oui.
La fonte. J'ai cru comprendre que l'enclume Bellafonte. Alors, en javanais, chez
oui,
les bibis, ça
fait
biribiché.
Ah bon? Ah oui,
oui. Mmh. Ah, biribiché, pacha de l'oued, mamamouchi du djebel, tu es le sultan des caravaniers en folie et des tribus rebelles. Quand tu joues à Sahara Bernard de ton piano à bretelles, ton corps se dilate soudain aux proportions d'une citadelle.
C'est beau, moi
je trouve quand même
magnifique.
il y a pas mal de parenté pour une fois.
Ah bon, à quel niveau?
Mais les menaces et les étrangers.
Voilà. Ah bon?
Les étrangers.
Oui. Alors, voyons la consigne suivante.
Enfin, vous dites en quatre vers que c'est vous. Tout comme lui, vous êtes bardé et pas fou. Enfin, pas fou, je suis pas certaine. Avec mes deux textes. Invulnérable, dans le sable invariable, vous avancez fort de vos préjugés.
Patrice Minet. Alors là, on vous regarde avancer.
Ainsi est votre serviteur, dont le cœur peut s'offrir au coup de l'amour, il est fait pour. Je suis l'éternel immuable du métal, ne retenez pas vos coups, ils sont doux.
Moi j'aime d'entendre le texte en entier parce que je ne comprends pas grand-chose.
Et j'ai peur que vous soyez déçus.
Non, mais je trouve que c'est très beau à l'oreille, la musique est belle.
Oui, j'ai surtout travaillé la musique.
Vous verrez que c'est vraiment un autoportrait de lui.
De Patrice Minet.
De Patrice Minet, oui.
Oui, on m'appelle souvent l'enclume.
Non, mais la douceur, même l'enclume.
Toi aussi.
Produit de la douceur.
Alors, Patrice Delbourg.
Oui, cher chéri, oui, cher Bibi, c'est tout nous dans cette bravoure. Tu nous transmets ta force tranquille comme dernier recours. Sur tes traces, nous sommes prêts à traverser les ergues, les règles et les gours pour aller dans le désert immense, évangéliser nos derniers amours.
Alors voilà, il y a le désert.
Et il y a l'amour.
L'amour peu, mais la force tranquille, beaucoup.
Ah,
donc
mon Dieu.
Là, quand même, sur quatre vers, il y en a deux qui font mouche.
Mouche.
Eh bien, on va réécouter vos poèmes. Maintenant, on va s'en délecter, Patrice Minet.
Si vous insistez.
Oui, beaucoup.
Cœur d'enclume. En quatre vers ici, je vous le fais savoir, je pèse. Je suis l'enclume qu'on ne laisse choir, car elle l'aise. J'aurais aimé qu'on me voyage en Orient. J'aurais rencontré d'autres gens bien plus sages. Hélas, rien ne coule dans mes veines, sauf l'écho. Quand on me frappe, ça ne me gêne pas, c'est chaud. Les marteaux, les soufflets sont là. Mon maréchal, le voilà. Il n'est rien qui le vale. Frava, peveu, mauvo, haha, mon idéal. Montre à tous que tu es à moi, mon féal. Peluchot, qu'on critique ou qu'on étincelle. Quand il tord sur mon plan la fonte, les braises, les éclats, ils domptent à merveille. Ainsi est votre serviteur dont le cœur peut s'offrir au coup de l'amour. Il est fait pour. Je suis l'éternel immuable du métal. Ne retenez pas vos coups, ils sont doux.
Oh. Bah, je me demande si c'est pas la plus jolie chose que vous ayez écrite au papou. Comme ça, sur des consignes d'Eva.
Je ne sais pas ce qui m'a pris d'un seul coup. Non, mais... Je me suis senti portée. Oui. Voilà, et je n'ai absolument pas réfléchi à quoi que ce soit.
Les coups doux.
Non, c'est somptueux. Mmh. Alors, on va écouter le texte de Patrice Delbourg, qui est très beau aussi, déjà séquencé. Alors
ça s'appelle « Alouette, rien de nouveau ».
Oui.
« Oh, comme je vous plains, gars des pays blancs, conducteur de gros tanks étincelants, aux carlingues persillées de tant de talismans, tombés de la Bible, du Talmud ou du Coran. » Vous qui semez le bruit et la fureur sur l'horizon, qui formez cinq colonnes à la dune parmi les scorpions, alléluia! Voici chérie Bibi qui se frise la moustache au collodion en sirotant une bonne rasade d'amer picon. Ah, Biri Biché, Pacha de l'Oued, Mamamouchi du Djebel, tu le sultan des caravaniers en folie des tribus rebelles, quand tu joues à Sarah Bernard de ton piano à bretelles, ton corps se dilate soudain aux proportions d'une citadelle. Oui, cher chéri, oui, cher Bibi, c'est tout nous dans cette bravoure. Tu nous transmets ta force tranquille comme dernier recours. Sur tes traces, nous sommes prêts à traverser les ergues, les règues et les gours pour aller dans le désert immense évangéliser nos derniers amours.
Ah, ah là 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 là.
Je crois que tu n'as jamais écrit quelque chose d'aussi joli.
Vous pourriez résumer ces deux histoires, Jacques Jouet ?
Oui, mais je préfère en train de le résumer. Lire Eva, ce sera peut-être plus sûr.
Alors, qu'est-ce que vous avez texté, Eva ?
Alors moi, j'ai texté « L'hippopotame » de Théophile Gautier.
Oh, ah,
voilà du lourd.
Ah, ben, il y a un temps qu'il y a une enclume, oui. Donc on est dans le lourd. Oui.
Et on est aussi à Java. Oui. L'hippopotame au large ventre habite aux jungles de Java, la lointaine adresse, où gronde au fond de chaque antre plus de monstres qu'on en rêva. Les monstres, ce sont les inhumains êtres. Le bois se déroule et siffle, là c'est les voix. Le tigre fait son hurlement, il nous menace. Le buffle en colère renifle, lui dort ou paie tranquillement. Donc notre héros qui se distingue du lot. Il ne craint ni Chris ni Zagé. En voilà du javanais. Chris, c'est une arme blanche.
Javanaise,
voilà. Oui. Il regarde l'homme s'enfuir et rit des balles des cipayes. Enfin, des soldats. Mais, ben là, on en avait plein.
Oui,
cipayes pour.
C'est Patrice Delbourg qui rebondissent sur son cuir. Je suis comme l'hippopotame. Donc, c'est là qu'il fallait dire, mais nous, c'est, enfin, moi, c'est mon héros. Je suis comme l'hippopotame, de ma conviction couvert, mes préjugés, forte armure que rien n'entame, je vais sans peur par le désert.
Ah, mais voilà.
Ben oui, parce que l'hippopotame, il n'y en a pas qu'à Java, il y en a dans le Nil.
Oui, ah. Oui.
Alors.
Et exactement, et même le recueil La Comédie de la Mort, ça aurait pu être votre titre, là.
Bon, mais écoutez, c'était très bien. Je voudrais le mot de la fin, Jacques Jouet, puisque maintenant, vous savez quel était le choix des...
Mais l'hippopotame est un peu l'enclume de la ménagerie.
Ouais. Chante un baiser, chante un baiser osé. Sur mes lèvres déposées par une inconnue que j'ai croisée, chante un baiser. Marchant dans la brume, le cœur démoli par une, sur le chemin des dunes, la plage de Malaubé dune, la mer du Nord en hiver, sortaient ses éléphants gris verts, des adamos passaient bien. Son caractère naïf et sincère. Le vent de Belgique transportait de la musique, des flonflons à la française, des fins de suffer à la fraise.
Elle chante le baiser de Souchon, elle c'est Vanessa Paradis. Et vous écoutez Les Papous dans la tête sur France Culture. Au micro, Françoise Trossard et la bande des Papous du samedi soir. À suivre jusqu'à 21h, Quentin Papou et puis La lettre d'amour par Ricardo Mosner, Violaine Schwartz. Et enfin, on achève bien les romans avec Jean-Bernard Puy et Jacques Jouet. Donc, Quentin Papou lit un autre Papou. Les Papous, vous savez, sont écrivains pour la plupart. Ils publient des romans, des essais, des pièces de théâtre. Ils ont parfois une double casquette, voire triple. Ce qui est le cas de Gérard Mordillat, romancier, homme de télé, spécialiste de l'histoire du Christ. Revoir en DVD Corpus Christi, c'était toute sa série diffusée en son temps sur Arte. Et puis les cinéastes, Vive la sociale par exemple, Les vivants et les morts, et très bientôt Mélancolie ouvrière. Et Gérard Mordillat sort pour cette rentrée un bon gros roman comme on les aime, La Tour abolie. Et c'est vous, Odile Conseil, qui avez le privilège de nous raconter. Alors, Odile.
Peut-être avez-vous déjà entendu Gérard Mordillat présenter ici ou là sa théorie sur le dernier mot d'un roman qui en dit long, ouais. En tout cas qui révélerait le sens profond de l'ouvrage. Dans La Brigade du Rire, le précédent, le mot de la fin, c'était « des mains d'ouvriers » et le texte était en effet placé sous le signe du travail. Alors, quel est le dernier mot de La Tour abolie ? Ah, ne comptez pas sur moi pour vous le dire, je ne gâcherai pas le suspense, mais sachez qu'il confirme assurément la théorie mordillesque. Alors, comment parler de La Tour abolie, dont le titre dû à Nerval, bien sûr, je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé, le prince d'Aquitaine à La Tour abolie.
Ma seule annonce... étoile est morte et mon luth constellé porte ce soleil noir de la mélancolie.
Bravo, Lucas Fournier, vous êtes très mordillesque ou très nervalien, ou les deux à la fois. Donc, ce livre dont le titre annonce la disparition d'un monde. Fallait-il, face à cette somme de 500 pages, adopter un ton d'importance du genre « avec ce roman dense, érudit, empli d'un souffle brûlant et d'une humanité multiple qui met en scène des riches, des pauvres, des très riches, des plus que pauvres, des salariés, des sans-papiers, des femmes blessées, des blancs, des noirs, des russes, des ordures, des hommes perdus ?» Gérard Mordillat, fidèle à ses convictions, prend le monde entier à bras-le-corps et le secoue jusqu'à ce que ça craque, jusqu'à ce que ça explose, histoire de faire table rase du passé.
Oh ben ça y est, c'est fini alors.
Réglons d'abord le « de quoi ça parle ». Cette tour abolie, c'est celle qui, à la Défense, abrite la compagnie d'assurance Magister. 38 étages, le PDG et les directeurs près du ciel, les cadres moyens à mi-route, le self qui nourrit les employés un peu en dessous et la lie de l'humanité dans les 7 niveaux des parkings en sous-sol, du moins 1 où la standardiste de l'entreprise et son frère dorment dans leur voiture, jusqu'au moins 7 où survivent des humains, si l'on peut dire, que le langage déserte peu à peu, en passant par le niveau des junkies, celui des travailleurs sans papier embauchés au petit jour sur les chantiers, bref, un monde souterrain qui évoque bien sûr les 7 cercles de l'enfer. Le jour où le self est supprimé pour laisser place à une activité plus rentable, ceux d'en bas, qui survivaient jusqu'alors en se nourrissant des restes jetés dans des poubelles, sortent de leur tanière et commencent à monter dans la tour. La tour abolie n'est pas un roman à clé, il n'y a ici qu'une seule clé, la clé de voûte du livre qui est le langage. La tour magistère a été construite, selon son PDG, pour que tous les salariés de l'entreprise parlent le même langage, du plus bas au plus haut, alors que la réalité est précisément inverse. Elle abrite à peu près autant de niveaux de langage que d'étages. Avec Zartmo et moi présidente, et souvent ici même, au Papou, Mordillat a déjà montré qu'il était un polyglotte accompli, susceptible de parler toutes les langues de ses personnages aussi bien qu'eux. Ses mots sonnent comme le marteau sur l'enclume ou cavalent avec la folie des personnages. Ils éructent et rotent et pètent et sentent le foutre avec les alcooliques dégénérés des niveaux inférieurs. Ils s'habillent en mode DRH, un jargon où l'on organise des séminaires pour booster les cadres et des jeux de rôle pour apprendre à survivre face à ceux qui veulent vous faire la peau. Comprendre la concurrence. Il maîtrise aussi le langage grand patron, qui acte rapidement des décisions de rachat, des mutations, qui décide des économies à faire, des ajustements à réaliser, des plans dits sociaux à mettre en place.
Ça Mordillat. Vous fait rire, Jean-Bernard.
Oui, Mordillat.
On croirait du Mordillat, mais en plus...
Eh oui, oui, pur sucre.
Le peuple de ce roman, c'est une cinquantaine de personnages. Mordillat a eu la bonne idée de les lister et de les présenter à la fin, qui tous s'expriment, aiment, baisent, souffrent, font des rêves. Tous existent avec leurs sentiments, même la grosse trude, une masse informe, baleine échouée sur des cartons, qui accouche au niveau moins 7 d'un enfant sorti d'un trou vaseux pour atterrir dans un monde pourri. Tous sont nommés, la standardiste comme les patrons, la fille de la com, les sans-papiers de l'équipe de nettoyage, ou Nelson, le cadre qu'on vire à la faveur d'une réorganisation, et qui tombe, franchissant ces 7 cercles de l'enfer. Deux autres encore que j'aime beaucoup. Bolo, un grand noir fan de Victor Hugo et de Verlaine, qui travaille au self. C'est le cum de Saphir, une nana des sous-sols qui vole des tours. Saphir était vénère, maxi furax, abruti d'abribus, merde, c'était pas le moment de canner, j'y vais à pied, bolo, pajo, illico, gironne, allons-y, allons-o.
Hein ?
Il y a de la rage Allô ? Dans ce roman.
Elle cite Mordillat.
Oui. Ah bon. Oui, vous avez entendu.
On ne dit pas Mordillat, on dit Gérard Mordillat. Oui. Monsieur Gérard Mordillat même.
Il y a de la rage dans ce roman, sans doute celle qui habite l'auteur face à un monde qui demanderait quelques ajustements pour le moins. Et sans doute faut-il avoir aussi de la rage pour l'empoigner et le dévorer comme Cro-Magnon dévorait son gigot de mammouth. Car ça dévore beaucoup chez Mordilla, ça dévore sauvagement. Ce n'est pas le genre qu'on chipote, une page par-ci, une page par-là. Voici d'ailleurs des critiques qui auraient pu paraître à la façon d'un jeu papou. Un roman qui ne vous laissera pas indifférent. Ça, c'est dans Balance Hebdo. Pourquoi toujours parler des sujets qui fâchent alors qu'il y a tant de belles choses autour de nous? Ça vient du mensuel La vie en rose. Ça fait penser à La tour infernale, mais qui osera adapter ça au cinéma? Se demande Cinéma Magazine. Beaucoup trop de personnages, on s'y perd, dans Le journal d'Alzheimer. L'auteur n'est pas avare de mots crus, mais ça finit dans le cuit. Structuralisme aujourd'hui. À l'issue d'une démonstration de 500 pages, Gérard Mordilla prouve qu'en effet, la colère peut provoquer un irrésistible mouvement ascendant. Mensuel, la physique pour tous. Quand on demande à Mordilla à quoi peut se résumer son activité protéiforme, il répond « j'écris ». Eh bien voilà, il écrit, nous le lisons, ça me semble être un excellent partage du travail. Allons-y, allons-o.
La tour abolie de Gérard Mordilla et c'est paru chez Albin Michel. Facile de dire je t'aime, encore moins de l'écrire. Selon le vieil adage, les écrits restent. Comment faire dans une époque où même les demandes en mariage se font parfois par SMS? Tu m'épouserais? Lol. Alors j'ai convoqué quelques papous pour un atelier d'écriture lettres d'amour. Celui qui s'épanchera, c'est Ricardo Mosner et Violaine Schwartz lui répondra. Ricardo, bon, vous êtes un passionné, vous avez un tempérament d'amoureux, ça se sent. Puis je vous connais depuis longtemps, je le sais. Et là, vous le dites à qui, votre amour?
À Marilyn.
Monroe?
Yes, I do. Oh. Chère Marilyn, depuis des temps immémoriaux, je m'adresse à toi, divine star, comme moi, du firmament. Je suis grec, je suis ancien, donc une figure paternelle. Tout pour te plaire, ma blonde. Depuis une éternité, je te réclame de venir dans mes bras. Je suis Morphée, fils d'Hypnos, le sommeil, et de Nyx, la nuit. Ton ascendance est moins noble, mais ça ne fait rien. Dans nos mondes règne la démocratie. Look at me, un miroir dans une main. Regarde-toi comme tu es magnifique next to me. Et de l'opium dans l'autre main pour t'enivrer, pour te faire vivre dans un monde sans douleur. Sans maladie, sans décrépitude, flambant comme la flamme que tu éveilles à moi, un monde cotonneux, comme les nuages où la mort est si lointaine, si inexistante qu'on ne la craint plus. À chaque mariage, j'étais là. À chaque tournage, à chaque internement psychiatrique, mais tu refusais mes visitations. Tu ne m'apercevais pas. Les nuits de Hollywood t'épuisaient quand la ville dormait. Ta tête fatiguée, bousculée en avant, découvrant ton somptueux cou et tes oreilles de pêche et de velours. Mes ailes n'entendaient pas mon sifflement de lambe, mes chuchotements vaporeux, mes bisous-bisous inconscients. De ma nébuleuse infinie, j'ai caressé la soie de ton corps. J'ai contourné l'empreinte of your body dans tes draps noirs comme la profondeur de mes propositions. Longtemps j'ai hésité, and now, après 7 ans de réflexion, chérie, je me sens rajeunir, car les démons se réveillent la nuit, les hommes préfèrent les blondes, mais moi, je préfère une blonde. Et je suis certain de vous aimer à chaud, je vous le dis, ma Marilyn, c'est une rivière sans retour. Traversez l'écran et rejoignez-moi. Aujourd'hui, j'ai pris une plume de mes ailes pour vous écrire enfin. Troublez-moi ce soir, une joyeuse parade nous attend, je vous prendrai où vous voudrez, dans les petits trains du Far West, aux chutes du Niagara, à l'arrêt du bus, mes ailes feront virevolter les plis de votre jupe blanche comme l'Olympe, vos genoux frôleront ma poitrine velue, et tels les princes et la danseuse, nous partirons par la porte des désaxés, une sarabande des pantins nous regardera nous envoler vers la planète des songes. Moi Morphée, pas la morphine. Moi Morphée, pas Lisanxia. Moi Morphée, pas Prozac. Moi Morphée, pas Valium. Moi Morphée, pas... etc. Moi Morphée, toi Marilyn, nous nous évaderons au-delà du soleil levant, dans un nid d'amour, dans mon rêve. Viens, je t'amène, laisse béton les barbituriques. Nous serons les rois de la piste. I wanna be loved by you, poupou, bitou. Morphée, service du sommeil et des songes prophétiques.
Oh, elle est magnifique, cette lettre. Quel dommage qu'elle ne l'ait pas reçue à temps.
Mais elle ne voulait pas, elle refusait. Il était dans son monde impitoyable de la drogue et du showbiz.
Ah ouais. Et vous avez cité les films que vous préférez de Marilyn. Hein,
oui, presque, il y a presque tous.
Hein. Ah, il manque Bus Stop.
Non, un arrêt de bus.
Ah, vous l'avez dit en français.
En français.
Oui, évidemment.
Morphée.
Et All About Eve, qui est son premier rôle, je crois. Oui. Où elle joue le rôle d'une petite comédienne qui passe comme ça dans une soirée.
Non, je n'ai pas mis Eve parce que...
Parce qu'elle avait un trop petit rôle, justement.
Parce que Morphée, c'est grec et Eve, c'est...
Ah oui, il y a une rivalité entre Morphée et Eve, c'est ça. Et c'est un rôle qui vous irait bien d'être Marilyn Monroe, Violaine Schwartz. Ah, je sais bien, vous êtes brune, mais bon.
Bah, elle était brune hein, au départ, d'ailleurs. Oui. Je pourrais très bien me
teindre en blonde.
Ben, oui, après tout. Oui. Hein?
Est-ce que vous répondez à Morphée?
Ben oui.
Vous tombez dans ses bras?
J'aimerais bien, mais... Mon cher Morphée, toi, le roi des rêves, mais pourquoi m'écris-tu si tard? Je t'ai cherché partout. Au fond de tous les miroirs. Mais il n'y avait toujours que ma triste figure, qui n'était jamais assez belle, n'est-ce pas? Et mes genoux, et mes cuisses, et mes fesses. Tu les aimes? Mais non, personne ne les aime. Je me suis teinte en blonde, j'ai platiné mes cheveux bruns, j'ai fait des régimes draconiens pour pouvoir exister dans ton monde de chimères. Mais je n'ai trouvé que des images en noir et blanc et des décors en carton-pâte. Je t'ai cherché dans le cœur des hommes, dans le cœur de tous les hommes, mais ils sont tous méchants. Les présidents, comme les chauffeurs de taxi. Je me suis brûlé les ailes à force de chercher les tiennes, tes jolies ailes de papillon. Hélas de t'attendre, faute de tomber dans tes bras, je suis tombée dans les bras de la morphine. Et un beau jour, enfin, plutôt une sale nuit, pire que les autres, je me suis dit que basta, que c'était une rivière sans retour. Alors j'ai pris triple dose de barbiturique, je suis partie au firmament, qui brille d'étoiles à Hollywood, comme en Grèce, n'est-ce pas? Et maintenant te revoilà. Happy birthday to you, cher Morphée. C'est trop tard, I love you, cher Morphée. Marilyn dans les choux, cher Morphée. Pou, 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 pou.
C'est dommage, les
mais
histoires
d'amour.
Mais
oui, ils se sont ratés.
Ils se sont ratés.
C'est ça, c'est...
I don't know what I have to say. It makes no difference anyway. Whatever it is, I'm against it. Whatever what it is and who convinced it.
Les papous dans la tête, les papous du samedi soir sur France Culture, dernière séquence. On achève bien les romans. Alors quand on voit les piles de nouveautés dans les librairies, on se dit que la création n'est vraiment pas en panne en France. Et pourtant, il arrive qu'un écrivain ait un manuscrit ou un tapuscrit plutôt en souffrance, au mieux relégué dans un tiroir, au pire en mille morceaux dans le grand conteneur des ordures recyclables. Il a buté sur une difficulté romanesque, l'écrivain. Il s'est arrêté et c'est dommage. S'il s'était confié à un ami, celui-ci lui aurait peut-être donné une bonne idée pour débloquer la panne d'inspiration. Et c'est ce qui vous arrive aujourd'hui, malheureusement, Jacques Jouy. Pourtant, des livres, vous en publiez tous les deux ans, voire tous les ans.
Oh là là.
Des bons gros livres.
Oh là là.
Assez difficile, d'ailleurs, assez exigeant.
Oh là là.
Et là, vous avez un projet qui n'aboutit pas.
Bah, j'en suis aux deux tiers.
C'est pas mal.
C'est un grand drame moderne.
Oui.
Sinon contemporain. Pour le théâtre, il faut que ce soit joué.
Ah, très bien.
Et il a un très beau titre qui s'intitule « Inimaginable !» Point d'exclamation. Donc j'en suis aux deux tiers. Au théâtre, c'est facile. Si vous composez un drame en trois actes et que vous en avez écrit deux, c'est qu'il ne vous reste plus qu'un tiers à faire.
Oui.
Ça, c'est plutôt encourageant. D'aucuns disent que le plus gros est fait. Moi, je crains d'avoir fait le plus facile. Plus j'y réfléchis et plus je considère que je suis peut-être bien irrémédiablement bloqué... Et que si vous ne me débloquez pas, je vais vraiment débloquer et tout envoyer promener, ce qui serait dommage compte tenu de tout ce que j'ai déjà écrit, qui est assez remarquable, vous allez juger sur pièce. Un grand drame contemporain, sinon moderne, pour le théâtre, que faut-il pour cela? Eh bien, il faut un grand personnage de l'histoire devenant un grand personnage de théâtre.
Oui.
C'est ma conviction, il n'y en a pas 36. Acte 1. La scène est sur la scène, mais elle est aussi à l'école militaire de Saint-Cyr. Personnage. Le professeur d'histoire militaire... Le professeur de stratégie militaire le professeur de tactique militaire, l'élève, le condisciple, les parents d'élèves. Je ne vais pas vous lire déjà tout ce que j'ai écrit, ce serait long et fastidieux. Sachez seulement que le premier acte décrit par le menu la vocation de l'élève, la conviction du corps professoral que celui-ci est déraisonnablement doué, que le condisciple est à la fois subjugué et inhibé par son ami, que les parents d'élèves sont fiers comme des petits bancs, etc. Dans ma pièce, l'élève parle en alexandrin comme si c'était sa langue maternelle.
Ah.
Il est vrai qu'il se trouve à Saint-Cyr, là où Madame de Maintenon embaucha Racine pour faire jouer Esther et Athalie, comme vous savez, à ses petites protégées. Mais ses partenaires parlent en prose. Vous n'ignorez pas que je milite pour un théâtre français qui mélange vers et prose, comme le faisait le théâtre élisabétain, par exemple. L'élève parle. « Mes maîtres, je vous dis que pour vos examens, je suis ce que je suis, là, serrons-nous la main. »
Ça commence bien.
Ouais.
Cette façon de traiter ses maîtres d'égal à égal n'est pas du goût de tout le monde, mais beaucoup sont impressionnés. Finalement, les professeurs décident à l'unanimité d'exempter l'élève surdoué de toute épreuve et de lui attribuer tous les diplômes avec mention. L'un d'eux, en leur nom à tous, déclare solennellement, en prose, « Qui imagine un seul instant le futur général de Gaulle passer un examen ?»
Oh.
Rideau. Acte 2. La scène est sur la scène, mais elle est aussi à Londres. Personnage, Winston Churchill, le médecin personnel de Winston Churchill, l'élève, qui a grandi sous sa bonne étoile. D'ailleurs, il en a deux maintenant, sur son képi. Churchill, une tomate par jour éloigne le médecin, à condition que tu vises bien. Ça, c'était une phrase historique de... authentique de Churchill.
C'est vrai?
Enfin, c'était une pomme, il y avait dit
c'est
ça.
An apple a day keeps the doctor away.
C'était une pomme, moi j'ai préféré la tomate.
Ouais, mais c'est plus expressif, oui.
Le médecin de Churchill. Sœur, votre anti-médicinisme primaire est vraiment désobligeant. Vous devriez faire un peu de sport. Churchill, never.
Oui. Ouais.
De Gaulle, qui grimace de douleur et qui parle donc en vers. Mon sang ne fait qu'un tour, je suis plus bas que terre. Qui disait que l'on a l'âge de ses artères ? Le médecin de Churchill. Sœur, votre protégé français, le général de Gaulle, se plaint de douleur à l'aorte. Churchill, quel âge a-t-il ? Sœur, il n'est pas vieux comme vous. Churchill, bah alors ? De Gaulle qui change de couleur. Je ne connaissais pas cette douleur au flanc. Elle insiste. Au secours, je suis comme deux ronds de flanc. Le médecin de Churchill, influencé par le style gaullien. Sœur, il se plaint aussi de douleur à la hanche. Churchill, ah, évidemment, il a toujours eu une certaine idée de la hanche. De Gaulle plié en deux, ce qui fait quand même une assez belle taille.
Ouais.
Ah, 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 ah. Le médecin de Churchill, sœur, il se plaint aussi d'élancement à la prostate. Churchill, je proteste, non, c'est insensé, nonsense, à son âge. Docteur, vous êtes en train de vous faire berner par ce grand comédien. Le médecin de Churchill, sœur, je pense qu'il y va de notre devoir d'allier fair play d'hospitaliser le général aux fins d'analyse de l'aorte, de la hanche et de la prostate aux frais de la couronne. Churchill, pas question. Le médecin de Churchill, sœur, le serment d'Hippocrate. Churchill, mais enfin, docteur, qui imagine un seul instant le général de Gaulle subir une telle batterie d'examens ? Rideau.
C'est intéressant, hein ?
Acte 3.
Il n'y a pas de femme dans votre pièce.
C'est peut-être ça la clé du blocage.
C'est peut-être le souci.
Acte 3. Personnage Yvonne.
Ah, merci.
Mais non, je ne l'avais pas mis, mais bon, je peux le rajouter. Acte 3. La scène est sur la scène, mais c'est aussi à Paris, au Palais de l'Élysée. Personnage De Gaulle, Michel Debré, Jacques Faucard, Malraux, Maurice Papon,
ah oui,
etc. De Gaulle, je suis vraiment la star des conférences de presse. Mais, bon, ce troisième acte, je le sens pas.
Voilà, c'est ça, il y a un souci.
Je ne sais pas quoi en faire.
Ouais.
C'est là le blocage. Mon personnage, tant qu'il était apprenti ou paria ou maudit, d'accord, je le sentais bien. Mais là, arrivé au pouvoir, jupitérien comme ça, comprenant tout le monde et personne, je ne sens plus sa théâtralité. Je suis bloqué. Et c'est là que, ben voilà, je lance... Le SOS.
L'appel.
L'appel de...
Si je me souviens bien...
L'appel de 62.
L'appel de...
Si je me souviens bien, William Faulkner a écrit un scénario sur De Gaulle qui n'a jamais été tourné non plus.
Ah ben, bah, peut-être... Est-ce qu'il y a-t-il un Faulkner parmi vous?
On va taper sur la table.
Faulkner.
Pour le faire venir, oui. Bon, bah écoutez, voilà. À mon avis,
merci d'avance.
Oui, c'est un beau projet, il y a de quoi faire. Hein. On va vous aider, je suis certaine que ça va marcher et que vous serez sur tous les théâtres de France et d'Angleterre. Et pour cela, on demande à Jean-Bernard Pouy de dépanner Jacques Jouet. Alors,
ce qui est quand même étonnant, parce que...
Il ne va pas y arriver. Passer,
ouais, donner des conseils à Jacques Jouet, c'est vraiment...
Enfin, c'est bon. Qu'il n'en a pas besoin, bon, c'est
oui,
ça.
Non, puis bon, mais bon, c'est vrai, il faut admettre que l'acte 3 commence très mal quand même. L'histoire de conférence de presse, tout le monde s'en fout. Et c'est vrai que cet acte ne peut pas être mené à bien. Pourquoi ? Parce que l'Élysée n'est pas le décor idéal pour la grandeur des armes. Ce qui doit être au théâtre, quand même. Oui. Donc je proposerais plutôt à Jacques Jouet de décliner ce que l'on sait du général, et qui est surtout après le deuxième acte, sublime, qu'il a déjà écrit, celui avec Churchill, devenu un personnage similaire à Richard II de Shakespeare. Quand Richard II se fait un peu balader par Bolingbroke, je ne sais pas si vous vous souvenez.
Pas très bien, non.
Non, mais pour lire absolument. La pièce, vous verrez.
Oui.
Et donc, il faudrait imaginer quelque chose comme ça. Par exemple, acte 3, la scène est sur la scène, mais elle est aussi à Baden-Baden. Personnage de Gaulle, oui. Le général Massue, et Yvonne qui dispose des compresses sur le front de son grandissime époux. Massue, je vous ai compris, mon général, mais je ne vous comprends pas. De Gaulle, tout est foutu, Massue, tout est foutu. Encore un alexandrin, parce qu'il
parle de Gaulle, alexandrin. Oui, ben, c'est son style.
Massue, De Gaulle, viré. De Gaulle, incompris, mais De Gaulle, revanchard, bordel. Yvonne, Charlot, pas de chien-lit, fille de la puque, du nerf. De Gaulle, encore un alexandrin, t'en as de bien bonne, Yvonne, de bien bonne, Yvonne.
Ah, voilà, il s'est pas foulé, De Gaulle.
Non, mais bon, c'est pas son boulot. Non
ouais, puis c'est l'âge aussi.
Bref, construire un acte où le général se remplume petit à petit, se remet à croire à ses deux étoiles, traite Massue de crétin, et encore je suis poli, se mange quelques saucisses de Francfort et revient à Paris, gonflé à bloc, prêt à se cogner Cohn-Bendit. Là aussi, il y a un bon personnage à traiter, à introduire, quand même extrêmement théâtral, hein, un peu comme un fou shakespearien, genre Puck ou autre. Bon. Mais à ce moment-là, je crois quand même qu'il faut envisager un quatrième acte.
Ah, c'est
alors, je sais, c'est du boulot pour Jacques Jouet, mais enfin.
Oui, oui, oui.
Parce que De Gaulle, pour continuer avec Shakespeare, c'est comme le roi Lear. Hein. Il est en fin de destinée, amer, mais quand même intact dans son gigantisme. Alors, acte 4, la scène est sur la scène, mais elle est aussi dans un pub irlandais qui s'appelle The Great Charlie, et pas loin d'une plage du Connemara, par là-bas. Bon. Mmh. Personnage De Gaulle, Yvonne. Et 50 alcooliques hurlant et chantant. Ce qui est normal dans un pub irlandais du côté du Connemara. Yvonne, Charlot, tu devrais pas boire autant. De Gaulle, tais-toi, Pimprenelle, et va me chercher une Guinness. La réalité n'est qu'une hallucination provoquée par le manque d'alcool. Et il termine, là, par une première, quand même, qui est un alexandrin, mis en anglais, mis en français.
Oh, c'est bien, ça, oui.
When my gosier is sick... I am very so sad. Let's drink a little more. C'est fini les salades. Voilà. Alors, on peut imaginer aussi un cinquième acte pour faire complètement shakespearien où le fantôme, l'ombre de De Gaulle parlerait avec la croix de Lorraine à Colombey.
Oh, oui, ce serait beau, ça.
Et toi, moi, toi.
Vous croyez?
Avec des brumes autour qui valsent, avec Debré qui rampe par terre, enfin, quelque chose que Jacques Jouet fera facilement.
Qu'est-ce que vous pensez de ce dépannage, Jacques Jouet?
L'argument massue du troisième acte, d'accord.
Oui. Vous pouvez prendre des éléments réécrire les alexandrins, par exemple.
Je ne suis pas tenu de tout prendre.
Non,
tout ça.
Oh. L'essentiel, c'est que vous soyez content et que vous payiez. Puis, bon?
Et puis il y a une,
ça mérite salaire.
Une anecdote avec Massue qu'on pourrait rajouter. Quand il est arrivé, il a dit « Alors Massue, toujours aussi con ?» Et Massue a répondu « Pour vous servir, mon général. »
C'est pour ça que j'ai dit « Massue, crétin, parce que je suis gentil et je ne veux pas aller trop fort. »
Mais il l'a vraiment dit, cette phrase?
Oui. Ah oui. Oui, il en a dit. Hein.
Ça, c'est des répliques.
Ça, c'est une chute, écoutez.
La plus belle de l'école, c'est quand, à l'Odéon, pendant un entr'acte de pièce, il était avec Pompidou.
Oui. Ils vont aux toilettes ensemble. Oui. Et donc, ils font pipi l'un à côté de l'autre. Et Pompidou est un peu embêté. Et il dit, pour maintenir la conversation, il dit « Belle pièce, mon général. » Et de Gaulle lui a dit « Regardez devant vous.
» Des papous dans la tête. C'est fini pour aujourd'hui. Une émission proposée par Françoise Trossard avec Anne de Pelchin et Bernard Laniel. Pour le téléchargement, direction franceculture.fr. Vous pouvez podcaster le numéro du jour pendant un an ou réécouter directement sur le site à vie. C'est vertigineux ça, à vie. Au revoir et place à la fiction sur France Culture pour passer une délicieuse soirée.
Quoi